Vous écoutez, on lit pour vous.
Nous n'apprenons rien. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Nous n'avons rien appris. Des siècles d'histoire qui sont un palmarès épouvantable de guerre, et nous osons sans aucune réserve parler d'un monde civilisé. Et un simple regard dans le rétroviseur temporel nous renvoie l'image d'hommes, à l'exception de quelques femmes, qui, pour une cause ou une autre, un bout de territoire, un dieu, parfois pour le même, en appellent à en découdre au nom de la simple et puérile satisfaction du pouvoir. Je pourrais produire un livre recensant des citations d'auteurs, d'autrices, d'artistes qui, bien mieux que moi, ont démontré l'absurdité de toute guerre, et que toute guerre, avant même qu'elle ne soit déclarée, peut être qualifiée d'échec. L'histoire nous l'enseigne, encore faut-il être à son écoute. On peut, comme en cette fin d'année, s'intéresser à un possible cessez-le-feu dans la bande de Gaza, comptabiliser les morts d'un côté comme de l'autre, ou encore écouter les commentateurs nous faire part des nombreuses rencontres au plus haut niveau pour tenter d'infléchir la position des belligérants. Du déjà vu, du déjà su. Et puis, comme un mauvais feuilleton quotidien, on s'habitue peu à peu. Il suffit de prendre l'exemple de l'Ukraine, passée au second rang dans les nouvelles. En février prochain, on fêtera le second anniversaire de cette guerre. Sans compter qu'avec le nouveau conflit entre Israël et le Hamas, on nous somme de prendre position en rappelant chaque fois qui a été le premier à commencer, il y a combien d'années. Pire, en restant neutre, selon la personne à qui nous parlons, la neutralité apparaissant comme un soutien implicite à l'ennemi. En tant que gay ou queer, en tant que personne qui ne s'est jamais reconnue dans les autres hommes, qui, dès l'adolescence, n'a jamais voulu leur ressembler, tellement il me semblait étranger, j'aurais tendance à croire que la masculinité toxique dont on parle tant aujourd'hui a toujours fait partie de la culture du mâle, de la culture des dirigeants, avec ou sans couronne, avec ou sans dieu. On peut dénoncer la soif de pouvoir chez un homme qui bat son ou sa conjointe, maltraite ses employés, on n'étend pas l'analyse jusqu'à l'appliquer à toutes les sphères de la société où ces chers hommes évoluent. Quand un ancien homme politique, aujourd'hui chroniqueur politique, explique que l'Assemblée à Québec est une arène dans laquelle il faut se battre, et dans laquelle il y a peu de place pour la mollesse, on a une illustration emblématique de ce qui peut se passer dans les bureaux et l'entourage de la majorité des dirigeants de la planète. Je me fous de passer pour un doux rêveur naïf. Mieux, je me fais un devoir de cultiver cette posture et de croire que les utopies peuvent être les réalités de demain. Et j'en citerai pour preuve les mouvements de SLGBTQ+. Comme je l'ai déjà écrit, nous nous sommes battus avec des talons hauts et des paillettes. Notre reconnaissance, nos droits, n'ont pas été conquis à coups de roquettes, d'actes terroristes ou autres. Oui, du sang, il y en a eu de versé. Il y en a encore. Mais il est toujours le fait de ceux qui s'opposent à nous, et en très grande majorité par des hommes. Aucune surprise. On pourrait associer les mouvements féministes qui, tout au long de leur longue marche, n'ont pas gagné en reconnaissance à coups de Kalachnikov, ni en s'en prenant à des innocents et en innocentes pour se faire entendre. Elles n'ont pas versé le sang des autres. Au contraire. C'est souvent le leur qui a été versé. Bien sûr, on n'élève pas l'analyse jusqu'à remettre en cause le patriarcat, la phallocratie. c'est bien trop woke. C'est d'autant plus facile que pour le contester, on ne cesse de se heurter à tous les niveaux à des hommes prêts à tout pour conserver les privilèges que leur accorderait le pouvoir. Ils sont même prêts à tuer femmes et enfants s'il le faut. Si je suis parfois critique à l'égard du mouvement 2SLGBTQ+, il n'en reste pas moins que je reste très sensible à toutes ces personnes de bonne volonté, comme il en existe dans d'autres sphères de la société et pour d'autres causes, qui n'ont pas renoncé. Sensible à celles et ceux qui, sans recherche de pouvoir ou de reconnaissance exagérée, continuent de s'agiter, qui mettent en pratique et partagent les valeurs profondes d'humanité qui les animent. Sensible aux nombreuses personnes dans le communautaire 2SLGBTQ+, qui continuent à œuvrer pour un monde pas seulement plus tolérant, mais plus accueillant des autres, de l'autre. Difficile alors de se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. On peut faire semblant d'y croire ou encore tenter d'échapper, le temps de réunions amicales et familiales, à la laideur du monde. On peut aussi profiter de ce moment pour recharger les batteries et essayer de retrouver, dans la chaleur partagée avec les siens et les siennes, proches ou lointains et lointaines, l'espoir, qui parfois nous abandonne le reste de l'année, de retrouver ensemble cette petite flamme d'humanité pour tenter d'en faire un grand feu de joie collectif. C'était « Nous n'apprenons rien », une chronique de Denis-Daniel Boulay, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
Les employés en premier. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 26 décembre 2023 dans la presse. Éric demande sur son site web « Mon employeur affirme être un employeur de choix. Mon expérience comme employé dans cette organisation m'amène à me questionner sur la véracité de cette affirmation. Qu'est-ce qui distingue vraiment les meilleurs employeurs ? Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de forte compétition pour le talent, les organisations sont nombreuses à se présenter comme un employeur de choix. C'est dans leur intérêt, bien sûr, si elles veulent attirer et retenir les meilleurs employés. Mais, comme le pressent Éric, le message transmis par son organisation est peut-être davantage une question d'image ou de mise en valeur d'une marque employeur qui dépeint davantage un souhait qu'une réalité. Éric veut porter un jugement éclairé sur son employeur, peut-être pour déterminer s'il va rester dans son emploi. De la même façon, s'il décide de partir, il voudra améliorer sa situation en se joignant à un employeur ayant plus à lui offrir. Dans les deux cas, une grille d'analyse appropriée sur ce qu'est un employeur de choix pourra l'aider à prendre une bonne décision. Trois croyances à reconsidérer. Un employeur de choix est un meilleur payeur. Mettre l'accent sur les questions monétaires peut facilement vous mettre sur la mauvaise piste. Souvent, les meilleurs employeurs s'assurent d'être compétitifs sur le plan de la rémunération globale, salaire et boni, sans toutefois se positionner comme l'organisation qui paye le plus. Ils n'ont pas besoin d'être dans le haut de la liste pour attirer et retenir leurs employés. Miser sur un style de leadership qui bâtit la confiance, soutient l'autonomie, renforce le sentiment d'appartenance et offre des possibilités de développement peut contribuer davantage au statut de meilleur employeur que les facteurs de motivation extrinsèques, comme l'argent, qui peuvent nuire à l'engagement. Un employeur de choix obtient des reconnaissances publiques. Se déclarer un employeur de choix a plus de poids si c'est avéré par des reconnaissances ou des prix octroyés par des organismes externes. Toutefois, le grand nombre de concours et la diversité des méthodologies pour déterminer les gagnants tendent à diluer la valeur de ces classements avec le temps. Certains concours, basés sur des sondages indépendants réalisés auprès des employés, sont plus rigoureux que d'autres. Mais la participation à ces concours étant volontaire, la liste des meilleurs employeurs dépend lourdement de qui se présente. Et comme plusieurs très bons employeurs ne soumettent tout simplement pas leur candidature, il est aléatoire pour un employé de se fier uniquement à ce critère, même s'il peut s'avérer pertinent. Un employeur de choix est innovant dans ses pratiques de ressources humaines. Certaines organisations mettent de l'avant des façons de faire qui retiennent l'attention et contribuent ainsi à promouvoir leur image en tant qu'employeur de choix. Ce peut être un lieu de travail exceptionnel, offrir des vacances et des absences pour maladie sans limite ou le gym sur place. Ces pratiques n'auront pas un impact durable sur le positionnement d'un employeur à moins qu'elles soient complémentaires à une culture organisationnelle forte qui met en valeur les personnes dans le succès de l'organisation. Des entreprises d'ici, telles Workleap, anciennement G-Soft, ont des pratiques audacieuses, mais elles ont aussi pris un engagement formel à rendre leurs employés heureux comme base de leur modèle d'affaires. Une mentalité, les employés en premier. Selon moi, la principale raison qui définit les employeurs de choix est une question d'approche ou de philosophie de gestion des ressources humaines. Contrairement aux nombreuses organisations qui considèrent encore aujourd'hui leurs employés comme un coût à limiter ou à réduire, les meilleurs employeurs y voient plutôt une source cruciale d'investissement. Bien que le capital humain dans lequel elles investissent ne sera jamais leur propriété, ces organisations font le pari que des employés satisfaits, compétents et en santé vont apporter plus de valeur pour le client et davantage d'innovation, de productivité et de flexibilité que les sommes qui seront consacrées à créer ces conditions. Pendant plus de 2 décennies, pour des fins d'enseignement au MBA, j'ai suivi une 30aine d'entreprises d'ici et d'ailleurs qui étaient considérées comme des employeurs exceptionnels. Wegmans, une chaîne d'épicerie de 110 magasins installés à Rochester, État de New York, et embauchant plus de 53 000 employés, a fait partie, depuis 1998, de la liste des 100 meilleurs employeurs établis par la revue Fortune. Elle fait régulièrement partie du top 10, dont le 4e rang en 2023. Comme d'autres entreprises de ce club select, Wegmans a eu, pendant une certaine période, le slogan « Les employés en premier, les clients en deuxième » pour signifier clairement que sa stratégie était de construire ses résultats d'affaires via un service exceptionnel qui prenait son origine dans les attitudes positives et les comportements de ses employés. Une mentalité, les employés en premier, laisse entendre que ce sont des employés satisfaits et fidèles qui créent des clients satisfaits et fidèles. La règle d'or qui veut que l'on devrait traiter ses employés aussi bien que l'on voudrait que ces derniers traitent les clients et leurs collègues est à la base de ce qui définit un employeur de choix. C'était « Les employés en premier », un texte d'Alain Gosselin paru le 26 décembre 2023 dans la presse.
Rawad Rmeili, L'homme calme du bloc opératoire, un texte de Denis Arcan, paru le 30 décembre 2023 dans la presse. Dans chaque entreprise, se cache au moins un employé qui se distingue tant par son efficacité que par l'appui qu'il offre à ses collègues ou l'appréciation des clients. La presse vous présente Rawad Rmeili. Tous les matins, des patients arrivent au 2e étage de l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM, et attendent leur opération avec un mélange d'espoir et de peur. Un stress que Rawad Rmeili a vu des milliers de fois depuis son premier patient critique en danger de mort il y a 21 ans, lorsqu'il était tout jeune infirmier militaire au Liban. M. Rmeili, 45 ans, est arrivé au Canada en 2005 avec sa femme, Charlie, elle aussi infirmière. Tous deux sont entrés à l'ICM en 2006 après des stages de mise à niveau. Après avoir œuvré aux soins intensifs, M. Rmeili est maintenant coordinateur adjoint du bloc opératoire qui comprend 7 salles d'opération où les chirurgiens sont entourés d'une petite armée d'inhalothérapeutes, d'infirmières, de perfusionnistes et d'autres personnels. Depuis plus de 10 ans, chaque jour, il m'aide à coordonner les activités entourant l'organisation des interventions chirurgicales cardiaques, dit sa patronne, Julie Richard, coordonnatrice du bloc opératoire, qui a écrit à la presse à son sujet. Il a le sang-froid et la capacité organisationnelle d'un contrôleur aérien dans un environnement de travail où il y a beaucoup de pièces mobiles, ajoute Mme Richard. Elle estime que ses qualités innées ont aussi été accentuées par son expérience d'infirmier militaire. Elle souligne aussi que son adjoint a le don de mettre en confiance des gens qui vont se faire opérer. Chaque matin, il est à mes côtés pour accueillir les patients avec sourire, empathie et calme pour diminuer leur stress, souligne Julie Richard. Née près de Zalé, une ville à majorité chrétienne, M. Rmeili se souvient de l'événement qui a mis fin à son enfance. « J'avais 12 ou 13 ans. Mon frère et moi étions dans un camp scout. Il y a eu un bombardement près de l'école où on était. On a couru entre les blessés pour rentrer à la maison. » Peu après, M. Rmeili s'est joint au programme pour les jeunes de la Croix-Rouge libanaise et a intégré une équipe opérationnelle à 19 ans. Après ses études à l'université et une année comme infirmier à l'hôpital Riyak, dans sa région natale, il a été appelé pour faire son service militaire d'un an dans l'armée libanaise. C'est une expérience qui donne de la maturité qu'on n'a pas normalement à 22-23 ans, dit M. Rmeili, une perspective qu'il conserve dans son travail actuel à l'ICM, dont il parle avec enthousiasme. Un poste dans un environnement à haute intensité qui le place proche des patients et proche du personnel. Mais en septembre 2001, il était à bord d'une ambulance dépêchée dans l'est du Liban, près de la frontière syrienne, pour secourir 2 soldats blessés par des narcotrafiquants. L'un avait des balles dans les jambes, l'autre une balle logée tout près du cœur. Dans la région, l'hôpital n'était pas équipé pour ça. On a roulé vers Beyrouth et l'hôpital militaire. M. Rmeili s'est retrouvé, à 23 ans, à soigner un soldat de son âge avec une balle logée dans une artère du cœur. Malheureusement, on n'était pas bien équipé. On l'a intubé dans l'ambulance, puis on n'avait pas de sang, juste du soluté. Et il saignait beaucoup. Le blessé aux jambes a survécu, mais pas le blessé thoracique. S'il avait été amené à temps dans un hôpital moderne, je suis certain qu'il aurait survécu. Mais ce soir-là, on n'est pas capable de fournir les meilleurs soins. On n'a pas ce qu'il faut. Ellipse. Moi, je manque d'expérience. Le médecin aussi. Il a 26 ans. Il sort de l'université. Ce garçon a été malchanceux. Ici, c'est extraordinaire. C'est tout le contraire des conditions dans lesquelles il accueille aujourd'hui les patients de l'ICM qui ont tout ce que la médecine moderne peut offrir. Et si ce souvenir demeure vif, il n'a en rien émoussé son optimisme, dit M. Rmeili. Ce que j'ai fait en arrivant, c'est prendre mon expérience et donner des soins en étant humain avec les gens. Les gens sont très stressés en arrivant en salle d'op et ils me voient en arrivant. J'ai une approche que j'ai acquise avec le temps qui me permet de ramener de la sécurité, de la confiance, qu'on est là comme de la famille, qu'on est là pour vous. Donc après ça, je vois le patient décrocher un petit peu. Il a confiance. Il commence à me parler d'autre chose, de sa famille, de ses enfants. Et c'est très bien, dit M. Hermeilly. Ici, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu au Liban. Je dis aux patients qu'ils sont bien entourés. Tout le monde est spécialisé au max. La technologie est là. Donc les chances sont de votre côté. C'était Rawad Hermeilly, l'homme calme du bloc opératoire, un texte de Denis Arcan, paru le 30 décembre 2023 dans la presse.
Les merveilles du cosmos. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 décembre 2023 dans La Presse. Des cycles solaires plus courts que prévu. Un océan toujours présent sous la surface de Pluton. Un hélicoptère sur Titan. Voici un florilège de nouvelles astrophysiques qui sont passées sous le radar cette année. L'océan de Pluton. 8 ans après son passage près de Pluton, la sonde New Horizons continue d'étonner. Une nouvelle analyse d'un cratère de 44 km de la plaine Sputnik Planitia, nommée Kylads, montre qu'il a été formé par une éruption cryovolcanique, donc quand de l'eau souterraine a fait irruption à la surface de l'ancienne 9e planète. Cette éruption est survenue il y a à peine quelques millions d'années, parce que ces traces n'ont pas encore été recouvertes d'une couche de méthane glacé pouvant atteindre 14 mètres, comme le reste de Pluton. La couche de méthane à cet endroit doit mesurer seulement quelques centimètres, écrivent les chercheurs dans Icarus. Cela signifie que Pluton pourrait encore avoir un océan souterrain. La mission vers Titan. La NASA a testé cette année en soufflerie l'hélicoptère Dragonfly qui explorera vers 2035 la lune Titan de Saturne. Ce sera la première exploration d'un monde océanique extraterrestre. Titan a une atmosphère d'azote et des mers de méthane qui pourraient abriter la vie. La mission Dragonfly a été approuvée en 2019 et décollera en 2028. Les cycles solaires, il y a 300 ans. Entre 1645 et 1715, le monde a connu un refroidissement d'un demi-degré, en partie lié à une anomalie solaire appelée minimum de Maunder, en l'honneur de son découvreur, un couple britannique de la fin du 19e siècle. Le Soleil avait alors moins de taches solaires qu'aujourd'hui. Des observations coréennes de l'époque viennent de montrer que le cycle solaire était aussi plus court. L'activité de notre astre passait d'un minimum à un maximum en 8 ans plutôt que 11 aujourd'hui. Les chercheurs américains qui ont décrit cette découverte en octobre 2023 dans AGU Advances explique qu'il s'agit d'observations d'aurores anormales dans l'ouest du Pacifique liées à l'activité solaire, faites en Corée entre 918 et 1910. Ce lien entre l'activité et les taches solaires pourrait permettre de prévoir l'influence future du Soleil sur le climat. Non pas un simple astéroïde, mais un astéroïde et 2 lunes. La sonde américaine Lucy a découvert la première lune binaire de contact autour d'un astéroïde en novembre. Il s'agit de deux lunes qui sont constamment en contact l'une avec l'autre, en orbite autour de l'astéroïde Dingkinesh, situé au-delà de Mars, a annoncé la NASA. D'autres astéroïdes ont déjà été identifiés comme des binaires de contact, mais jamais des lunes. Lancé en 2021, Lucy a comme objectif final les astéroïdes troyens situés sur l'orbite de Jupiter. La lune binaire de contact de Dingkinesh pourrait aider la défense planétaire contre les astéroïdes. Dingkinesh est le nom éthiopien du fossile d'Australopithèque Lucy. La pollution aérospatiale. Environ 10 % des particules aérosolisées de la haute atmosphère sont générées par l'activité spatiale humaine, selon une nouvelle étude de l'Administration océanique et atmosphérique américaine, NOAA. Les satellites qui sont vaporisés durant leur rentrée dans l'atmosphère génèrent cette pollution généralement métallique. Cette proportion est appelée à augmenter avec l'activité aérospatiale et pourrait affecter la réflexion du Soleil et la formation de cristaux de glace stratosphériques, avançaient les chimistes de la NOAA dans PNAS en octobre. Des astronomes de l'Agence spatiale européenne ont découvert la planète la plus réfléchissante jamais observée à une distance de 264 années-lumière. Il s'agit de l'exoplanète LTT9779b, dont les nuages métalliques réfléchissent 80 % de la lumière de leur étoile contre 30 % pour la Terre. Dans la revue Astronomy and Astrophysics l'été dernier, les chercheurs expliquaient que la présence de ces nuages métalliques est un mystère, parce qu'à 2000 degrés Celsius, l'atmosphère de LTT9779b devrait normalement être trop chaude pour toute substance gazeuse. C'était « Les merveilles du cosmos », un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 décembre 2023 dans La Presse.